RCF.
La doctrine sociale de l'Église, c'est une réflexion sur ce qui traverse notre existence. C'est une réflexion chrétienne qui concerne aussi ce que nous faisons de notre argent. Et donc, mais quel attachement nous avons à la vie matérielle? Est-ce que notre foi en la résurrection peut changer justement ce rapport à l'argent? Frère Jacques-Benoît Rauscher, bonjour.
Bonjour.
Cette question, elle vous a intéressé. Vous la traitez notamment dans un livre qui s'intitule « Découvrez la doctrine sociale de l'Église ». Avant d'aller voter aux éditions du CERF, vous êtes dominicain et vous vous arrêtez sur cette réflexion de Saint-Justin sur ce que l'espérance en la vie éternelle peut justement provoquer dans notre relation au bien matériel. Est-ce que l'argent détourne de Dieu, au fond? C'est ça la question qui est posée.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça m'a frappé en travaillant cette question et en allant voir les premiers textes chrétiens, de voir que c'était une question centrale pour les chrétiens, ça, de se dire, au fond, comment est-ce que le christianisme, comment est-ce que le fait que j'embrasse la foi chrétienne change mon rapport au bien matériel et notamment à l'argent? Et je me suis dit, ben, au fond, si à une sortie de messe, je faisais un petit micro-trottoir comme ça et que je demande aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui vous distingue des autres hommes comme chrétiens? Je suis sûr qu'ils ne me répondraient pas en évoquant les biens matériels ou leur rapport à l'argent. Ils évoqueraient sans doute le rapport aux autres, la vie familiale,
l'éthique,
le pardon, peut-être la spiritualité, mais pas l'argent. Et je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose qu'on devrait redécouvrir. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens disaient que c'était si important pour eux que ce rapport aux biens matériels était changé par le fait qu'ils adoptent la foi chrétienne?
Vous voulez dire que ça nous arrange bien de ne pas trop regarder cette question de près, parce que après tout, quand on a cet argent, c'est qu'on l'a gagné, c'est qu'on a travaillé, c'est qu'on l'a reçu peut-être de parents qui avaient eux-mêmes beaucoup travaillé. Donc, au fond, est-ce que c'est chasser le caractère légitime, après tout, de cet argent reçu, ou c'est ne pas vouloir être dérangé par l'idée qu'il faudrait partager, donc se priver, en quelque sorte?
Oui, je pense peut-être aussi qu'on est baigné dans un contexte intellectuel qui se dit que ce qui compte avec l'argent, c'est de bien le gérer, et puis que c'est pas une question si morale que ça, finalement. Or, je crois que notre rapport à l'argent, au bien matériel, dit quelque chose aussi de notre rapport à Dieu, et au fond de notre vie spirituelle, même de notre vie de prière, dans un sens.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, je crois qu'on peut parfois même avoir une vie de prière, une vie même sacramentelle qui consiste à accumuler, qui consiste à faire un peu du marchandage avec Dieu, hein, du type « je t'ai quand même donné un pèlerinage à Lourdes, je t'ai donné une nuit d'adoration, donc t'aurais un peu intérêt à me donner ça hein, ». Ou bien au contraire, voilà, je sais pas, moi j'ai donné tant de temps pour ma paroisse, et ben donc du coup le bon Dieu d'une façon ou d'une autre va me le rétribuer. J'ai envie de maximiser par exemple ma vie spirituelle en devenant dominicain par exemple. Vous voyez, une manière de réfléchir qui va être sur un calcul coût-avantage et peut-être quelque chose qui est moins dans l'ordre de cette gratuité qui devrait aussi caractériser notre relation avec Dieu qui se définit d'abord comme une relation d'amitié. Et l'amitié, c'est par définition gratuit.
Alors ça suppose de penser aussi notre attachement aux autres et à nos biens différemment, c'est difficile?
Effectivement, c'est difficile, mais ça dit quelque chose de fondamental sur la façon dont au quotidien, en fait, on pense notre attachement au Christ et dont on prend au sérieux aussi les promesses de la vie éternelle. Pour les premiers chrétiens, c'était quelque chose de très important, ça, de dire « j'ai pas besoin d'accumuler de façon démentielle, parce que de toute façon, ma cité, elle se trouve dans les cieux ». Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être encore une fois complètement inconséquent et se dire voilà, Jésus va pourvoir au bien de ma famille et j'ai pas besoin d'acheter une maison ou j'ai pas besoin de remplir mon frigo.
Oui, hein. Parce qu'on voit bien que Saint Paul, il ne veut pas dépendre justement là. Lui aussi, il est quelque part attaché à son indépendance, si on peut dire ça comme ça avec des mots d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Hein, donc encore une fois, c'est pas un appel à l'inconséquence, mais c'est un appel à prendre au sérieux la question. Qu'est-ce qui change dans ma manière de consommer? Qu'est-ce qui change dans ma manière de posséder depuis que je suis chrétien? Ou par le fait que je sois chrétien, est-ce que je me comporte différemment dans ma manière d'acheter, dans ma manière de produire, par rapport aux gens qui m'entourent?
Mais derrière, on entend aussi la question du mérite. Je l'ai mérité, cet argent. Je l'ai mérité, cet amour de Dieu.
Oui, alors ça, c'est pas faux hein, que quand on travaille, ben on a droit de recevoir un salaire, on l'a mérité. Hein. Mais en même temps, on doit toujours se dire que l'on est gestionnaire des choses de ce monde et de ce monde qui passe. Et ça, c'est une dynamique à l'égard des biens de ce monde que les chrétiens ont toujours tenu. C'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Saint Ambroise de Milan, par exemple, il disait de façon très ferme, quand tu donnes ton argent aux pauvres, tu ne lui donnes pas quelque chose qui t'appartient, tu lui rends quelque chose qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas en raison d'un système injuste. Et je trouve que ça change complètement la manière de pratiquer, par exemple, l'aumône. Ça consiste pas à dire « moi j'ai » et du haut de ma possession, je vais faire tomber quelques miettes auprès du pauvre qui se situe à mes pieds, mais je rétablis une injustice qui ne devrait pas exister au sein de l'humanité.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Jacques-Benoît Rocher, vous citez dans votre livre Saint Thomas d'Aquin qui va jusqu'à considérer qu'un pauvre en cas d'extrême nécessité peut prendre les biens d'un plus riche. Ce n'est pas un péché, mais c'est un vol qui répare une situation d'injustice.
Oui. C'est curieux. C'est très très fort hein, comme parole. Mais pour vous dire qu'elle n'est pas du tout hors d'actualité, le pape Jean-Paul II l'a exactement réutilisée quand il était en Amérique du Sud, en disant dans un contexte de grave inégalité, le vol n'est pas un péché. Enfin, en tout cas, le fait de dérober le bien qui appartient à un autre n'est pas un péché pour faire face à une grave nécessité. Il ne s'agit pas évidemment de dire, je ne sais pas, moi j'ai besoin d'un nouveau téléphone, donc je vais aller le prendre dans le sac de mon voisin dans le métro.
Au fond, c'est rétablir soi-même la justice aussi, avec les limites que ça a.
C'est dire tout simplement que la vie humaine, et donc quand elle est menacée par exemple par quelqu'un qui a faim, la vie humaine est plus importante que la défense de la propriété. Donc, s'il y a des fruits à l'étal d'un marchand et qu'une personne meurt véritablement de faim, il n'est pas tout à fait dans la situation d'un vol s'il dérobait cela sans payer. Et voilà, il ne faut pas en faire non plus un principe de vie sociale. C'est des situations d'urgence, mais qui disent quelque chose néanmoins hein, de la manière dont on se situe par rapport à la propriété et du coup par rapport au bien matériel.
Oui, parce que frère Jacques-Benoît Rocher, dans la doctrine sociale de l'Église, ce qui est interrogé, c'est la possession aussi. C'est-à-dire, c'est pas tant de ne pas autoriser de posséder quelque chose. Au contraire, l'Église, encore une fois, redit bien que la propriété privée est un espace de liberté. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette possession ?
Oui, qu'est-ce que je fais de cette propriété ? Comment je la mets au service des autres ? Est-ce que je fais au fond de cette propriété quelque chose qui vient simplement satisfaire mon ego, hein, et notamment ma volonté peut-être de me mettre à la place de Dieu en disant j'ai tellement de choses que je ne risque plus rien, hein, je risque pas de coup du sort, les biens matériels quelque part me sécurisent à un point où je me dis j'ai pas besoin de Dieu, j'ai plus besoin des autres. Et ça c'est quand même un risque qui est pointé par la Bible chez celui qui possède cette volonté de toujours posséder plus pour à la fin peut-être se mettre à la place de Dieu.
Comment, à l'inverse, l'Église a réagi face au communisme qui proposait, on a vu que dans la réalité c'était pas si évident, mais en tout cas qui avait comme idée qu'on devait tout partager, avoir des lieux d'espace communs, beaucoup de choses communes. Comment l'Église a réagi par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a vu l'accomplissement des premiers textes des Actes des Apôtres ?
Alors absolument pas. Elle a toujours été assez totalement contre le communisme, mais aussi contre le libéralisme. Et ça, c'est moins connu. Vraiment, le pape Paul VI se situe dans une perspective où il dit les deux réponses sont des mauvaises réponses. Le communisme, en voulant faire en sorte que l'ensemble de la collectivité finalement possède et qu'il n'y ait pas de propriété privée. Et puis le libéralisme, en mettant tellement l'accent sur la propriété privée qu'on en oublie la destination universelle de ces biens et la nécessité de se préoccuper du fait que l'autre puisse avoir accès à ces biens.
Au-delà de l'idéologie, qu'est-ce qui gênait l'Église dans le communisme, dans ce partage de biens ? Au fond, cette égalité à tout prix, ça heurtait.
Voilà, c'est déjà le fait que, effectivement, un grand principe dans la pensée de l'Église, c'est de dire à chacun selon ses besoins, et les besoins ne sont pas les mêmes pour chacun. Et puis que la propriété, encore une fois, en elle-même n'est pas mauvaise. La propriété, elle peut être bonne, elle est même bonne pour une meilleure gestion des biens de ce monde.
Sous-entendu, si tout le monde possède, personne ne possède.
Voilà.
Personne ne prend soin.
Personne ne prend soin si tout le monde possède de façon indifférenciée. Je peux vous dire, je vis en communauté, on a des biens qu'on possède, par exemple des voitures.
Vous êtes dominicain.
Je suis dominicain et je peux vous dire, s'il n'y avait pas un responsable de la voiture, je suis sûr qu'elle ne serait pas toujours très propre ou qu'il n'y aurait pas toujours de l'essence dans le réservoir quand on veut la prendre. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui organise en fait cette propriété, sinon c'est l'anarchie. Et c'est ça que l'Église pointe directement dans sa condamnation du communisme, au-delà du fait que c'est en plus une idéologie athée avec laquelle elle ne pouvait pas être d'accord. Mais sur cette question de la propriété, il y a ce côté finalement peu réaliste dans le rapport à la propriété et dans le fait que, au fond, on s'investit mieux quand on a la propriété d'un bien. Mais qui dit propriété dit plutôt pour l'Église, je suis gestionnaire de ce bien, lors de mon passage sur cette terre. Mais je peux jamais totalement m'en dire propriétaire au sens où je le possède sans penser aux autres. Voilà.
Alors comment est-ce qu'on peut justement arriver à considérer que ces biens, je les possède le temps de mon passage sur Terre, puisqu'il y a une vie après ?
Alors déjà, je crois que c'est de poser la question toujours du nécessaire. Et c'est une question qu'on ne se pose pas beaucoup, hein, je trouve, aujourd'hui. On est beaucoup dans une logique d'accumulation, mais on se demande finalement pas toujours, est-ce que c'est nécessaire ? Alors quand je dis nécessaire, je ne parle pas seulement de la nécessité biologique. Ça peut être nécessaire pour une famille d'avoir une belle maison ou de partir en vacances. C'est pas ça. Mais dans quelle mesure est-ce qu'à un moment donné, je me pose et je me dis, est-ce que j'ai besoin de ce que je vais acheter ? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire grandir en humanité ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet de vie plus général et pas simplement dans une espèce de satisfaction de me dire, je sais pas, moi j'ai le dernier ordinateur à la mode ou la dernière paire de baskets que je trouve super chouette. Enfin voilà. Comment est-ce que ça s'inscrit dans qui je suis de façon plus générale et évidemment dans ma relation à Dieu ?
Voilà, justement, la relation à Dieu, est-ce que véritablement elle peut prendre plus de place auprès de ceux qui n'ont rien, j'ai envie de dire ? En quoi la possession pourrait nous gêner dans l'accès à Dieu ?
Eh bien parce que ça, c'est quelque chose qui est alors très présent dans la Bible quand on l'ouvre, c'est de se rendre compte au fond que la possession de l'argent, mais même des biens matériels, peut être une idole concurrente à Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit il y a une forme de soif qui se crée dans celui qui possède, qui a toujours envie de posséder plus, et plus, et plus, et plus. Et du coup, son esprit peut être complètement perturbé par cette volonté de posséder toujours plus, et du coup, il se détourne de ce qui est véritablement important, c'est-à-dire la recherche de Dieu. Mais en même temps, la Bible, elle est pragmatique. Elle dit celui qui n'a rien, il est préoccupé aussi par le fait qu'il ne possède rien. Donc elle dit, ben voilà, il faut toujours trouver un bon équilibre dans ce rapport au bien matériel, ne pas être obsédé parce qu'on n'a rien et ne pas non plus être obsédé par une accumulation sans fin qui ferait qu'à un moment donné, on se détourne de ce qui en vaut la peine.
Merci frère Jacques-Benoît Rocher, on vous retrouve demain.